On a parlé déjà de la joie ce matin. C'est une joie pour nous d'être avec vous. Et c'est une joie et un privilège pour moi d'ouvrir la parole avec vous ce matin. Je vais prendre un texte dans un instant dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Alors je sais bien que vous avez parcouru cette épître l'année dernière. D'ailleurs, on avait commencé ce parcours ensemble à Tin Ranch pour plusieurs, hein, en septembre 2017. Mais il y a un texte dans le quatrième chapitre que j'aimerais reprendre, que le Seigneur m'a mis à cœur, sous un autre angle, on va dire, par rapport à ce que vous avez pu voir auparavant. Et on n'a toujours pas l'image. Enfin, cette fois-ci, on a... Bon, voilà. Donc, vous avez la référence. On lira dans un instant. J'aimerais d'abord souligner quelque chose sur lequel on glisse parfois quand on lit cette épître. C'est ce qui vient juste avant le texte que nous allons lire. Et c'est une prière, hein, une prière de Paul. Alors, si j'allumais la télécommande, ça marcherait peut-être mieux. Paul a parlé à Dieu au sujet des Thessaloniciens avant de parler aux Thessaloniciens au sujet de ce que Dieu voulait pour eux. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à retenir pour nous-mêmes d'ailleurs, hein, quand on a des choses qu'on pense devoir dire aux autres. Parler à Dieu de ceux à qui on veut parler, c'est important. Et voici ce que Paul donc a dit au Seigneur. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu et Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. J'ai souligné en rouge les deux choses qu'il va en fait reprendre dans le chapitre que nous allons lire, hein, la question de l'amour fraternel et la question aussi de marcher dans la sainteté. Et en fait, toutes les injonctions, on pourrait appeler injonctions de Paul, poussent dans le sens de ce qu'il a déjà demandé à Dieu, c'est-à-dire qu'il les invite ensuite à entrer dans ce travail que Dieu veut faire dans leur cœur, hein, de laisser le travail de l'Esprit de Jésus se faire en eux. Et c'est aussi quelque chose que nous pouvons prendre pour nous. L'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres, on pourrait dire, envisageait un long travail de renouvellement, de redressement, de réorientation dans la vie de chaque personne touchée par la grâce. On n'est pas changé en l'image de Jésus-Christ en un claquement de doigts. Il y a un travail que Dieu a commencé, mais il y a un travail que Dieu continue aussi à opérer en chacun de nous. Et nous avons tous besoin de ce travail, quelle que soit la longueur du temps que nous avons déjà passé dans la vie chrétienne, nous avons besoin encore de voir nos valeurs essentielles profondément reconfigurées pour les aligner sur la sainteté de Dieu lui-même. Nous avons besoin d'apprendre à confesser comme mal tout ce que Dieu déteste, tout ce qu'il a en horreur, pour nous en détourner. Ça fait partie de notre marche avec lui. Et nous avons besoin aussi d'apprendre à reconnaître comme bien tout ce qui plaît au Seigneur, hein, tout ce que le Seigneur aime et désire pour nous en réjouir et aussi pour le poursuivre, hein, ce bien selon Dieu. Et l'Esprit de Christ nous est donné pour réorienter notre quête de bonheur, de satisfaction. Et cet esprit qui nous est donné est esprit saint. Et ça qualifie aussi donc son action Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans le chapitre 4. Et pour commencer, donc, Paul va souligner l'importance de vouloir construire sur nos acquis. Je suis parfois interpellé, interloqué, navré même, devant des personnes de ma génération, des chrétiens de ma génération, qui semblent avoir l'idée qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Ce n'est pas vrai. Ce ne sera jamais vrai que je n'ai plus rien à apprendre. Et donc, pour commencer, Paul va souligner l'importance de cultiver le désir d'aller plus loin. Et il prendra donc deux exemples concrets, hein, dans des domaines où nous pouvons toujours progresser encore. Il va esquisser d'abord l'idée de se construire un témoignage en adoptant la pensée de Dieu, même lorsqu'elle heurte la pensée d'opinion majoritaire dans notre culture. Et ici, il va prendre l'exemple de la sexualité. Et puis, il reviendra sur la mise en pratique entre chrétiens de l'amour, avec une petite mise en garde aussi au sujet de trois dérives qui sont à éviter pour que les relations fraternelles aussi constituent un témoignage. Ce que nous vivons entre nous est censé constituer un témoignage pour ceux du dehors. C'est l'expression de Paul. Donc, une église qui va bien est une communauté animée par le désir de progresser encore. Je lis le début du chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Le désir d'aller plus loin. Timothée était allé à Thessalonique et avait constaté que, malgré une introduction plutôt succincte à la foi chrétienne, ces chrétiens thessaloniciens marchaient bien et persévéraient avec le Seigneur. Et l'apôtre s'est réjoui, je vous lis ce qu'il dit, « Timothée nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, vous tenez ferme dans le Seigneur. » Et cette jeune église, vous l'avez déjà vue ensemble l'année dernière, cette jeune église était une grande source d'encouragement pour Paul. C'est bien de pouvoir être une source d'encouragement, même pour ses aînés dans la foi. Je trouve ça formidable, hein, que Paul s'encourage de la vie de ses frères et sœurs à Thessalonique. Que le Seigneur nous aide aussi à trouver notre joie de cette façon-là. Ses frères et sœurs appuyaient leur vie sur les bases, les bonnes bases posées par Paul et son équipe. Et il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. Et c'est bien ce que vous faites. Il est important de reconnaître le chemin déjà parcouru. C'est important. N'oubliez pas tout le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a fait faire. C'est important de reconnaître cela pour s'en réjouir. Quand nous nous regardons les uns les autres, à cause de notre humanité, il est tellement plus facile de voir ce qui ne va toujours pas, hein, ce qui pourrait aller mieux, que de voir ce que Dieu a déjà mis en place, ce que le Seigneur a transformé. Et le Seigneur, ici, à travers Paul, je pense, nous invite quand même à nous réjouir de ce qu'il a déjà fait dans la vie de chacun. Mais il serait dangereux d'en rester là. Il serait dangereux d'en rester là. Nous avons tous besoin également d'entendre de réentendre aussi, sans doute, la supplication de l'apôtre. Nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes. Ne nous endormons pas. Ne nous satisfaisons pas de ce que nous avons déjà goûté de la grâce du Seigneur. Parce qu'elle est infinie et parce qu'elle est tellement diverse. Et nous n'aurons jamais fini d'en sonder les profondeurs. J'espère que vous le croyez. Il y a tellement plus à découvrir encore en regardant à notre Dieu, à ce qu'il est, à ce qu'il veut être pour nous. Et Dieu veut nous donner un témoignage en nous conformant de plus en plus à l'image de son Fils. De plus en plus. C'est vraiment le thème qui ressort ce matin de ce texte de Paul. Le Seigneur veut qu'il y ait des choses qui se passent de plus en plus en nous. Alors, il est important, bien sûr, que les bases soient bien en place. Ça, on est d'accord, et il n'est pas inutile de vérifier de temps en temps que ces bases ne s'effritent pas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ouvre chaque semaine la parole de Dieu ensemble, et c'est pour cela qu'on veut ouvrir aussi sa parole jour après jour, chacun pour soi. Timothée a témoigné des fruits de l'Évangile dans la vie des chrétiens à Thessalonique. Foi, amour, persévérance. Trois choses simples, mais trois choses qu'il faut entretenir et dans lesquelles on doit rester et qu'on ne dépassera jamais. On aura toujours besoin de renouveler notre foi, notre amour et notre persévérance par la grâce de Dieu. Et Paul reconnaît que c'est très bien. Il les félicite. Mais il laisse entendre que parmi les nombreux encouragements et de nombreux encouragements et injonctions qu'il leur a transmises de la part du Seigneur Jésus, il y a largement de quoi baliser un chemin de croissance et de progrès. Entretenir les bases, mais aussi creuser, approfondir, aller plus loin. Alors il ne s'agit pas de chercher à ajouter d'autres doctrines pour élargir le périmètre de notre foi. Il y a une foi que nous avons reçue, qui a été confiée une fois pour toutes, mais il faut approfondir les multiples applications pratiques de notre vie nouvelle en Jésus-Christ, de l'action de la croix dans nos cœurs. Et ça, nous n'en aurons jamais fini avant que le Seigneur revienne. Autrement dit, j'essaie de le formuler d'une autre façon, nous devons laisser l'Évangile contester, puis reconfigurer nos réactions. Ces choses qu'on a du mal à maîtriser. Nos valeurs. Et aussi notre sens de ce qui est vraiment important. Parce que nous vivons dans un monde qui ne cesse d'inventer et de mettre en avant comme importantes, et même souvent comme essentielles, des choses que Dieu considère comme dérisoires et même néfastes. Le mot de Paul pour ces choses-là, c'est des futilités. Et quand on y réfléchit, que de futilités aujourd'hui, dans le monde où nous vivons. Nous avons donc constamment besoin de laisser l'Esprit de Jésus agir pour remettre en cause les idées fausses et les comportements contestables qui essayent de s'infiltrer. Nous sommes constamment sous cette pression et c'est notre combat de tous les jours. Et l'Évangile, on pourrait dire, qui réjouit nos cœurs, c'est bien, doit aussi se diffuser jusqu'au bout de nos ongles et de nos neurones, surtout. Et Paul va prendre donc des exemples très pratiques pour qu'on saisisse le sens et la portée de son exhortation à progresser encore. Pour entrer vraiment dans la vision de l'apôtre pour la vie chrétienne, il faut commencer, je crois, par reconnaître chacun pour soi que notre mise en pratique de l'enseignement du maître reste approximative. Et en pensant à moi-même, je suis gentil en disant approximative, parce que je pense qu'on pourrait utiliser des mots plus forts. Il y a encore du chemin à parcourir. Que le Seigneur nous aide. Et cette prise de conscience ne doit pas nous décourager. Encore une fois, n'oublions pas tout ce que l'Esprit a déjà réalisé en nous et à travers nous. Mais cette prise de conscience doit nous convaincre qu'il reste une marge de progression qui n'est pas négligeable. Et croyons que le Seigneur a son idée au sujet de ce qu'il veut toucher et transformer dans ma vie, dans nos vies, aujourd'hui et demain, et dans les semaines, dans les mois à venir. Le Seigneur sait où il veut en venir avec nous, où il veut que nous allions avec lui. Et notre prière, donc, peut être et doit être, je pense, Seigneur, fais-nous progresser encore. Je reprends ma lecture pour aller un petit peu plus loin, verset 3. Ce que Dieu veut, je reprends verset 2 plutôt, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Verset 3 commence par un grand principe général qu'il est essentiel de garder à l'esprit, et ça concerne la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ou la volonté de Dieu, c'est votre consécration. Alors, d'autres traductions, c'est votre sanctification, votre façon de dire la même chose. Et ici, dans la Summer 2015, c'est que vous deveniez toujours plus saint. Et on voit dans cette traduction-là comment ça se raccroche à l'idée de faire des progrès, d'aller de plus en plus loin avec le Seigneur. Et il y a là, pour moi, un éclairage très important au sujet de cette volonté de Dieu que tant de chrétiens disent avoir du mal à discerner. Que veut Dieu pour moi? Alors Paul pose, il me semble, ici le principe que Dieu se soucie bien plus de ce que nous sommes et de ce qu'il veut nous voir devenir que des détails de ce que nous mangeons ou portons, ou du métier que nous allons exercer, ou du lieu où nous allons habiter. Parce que Dieu sait que si notre cœur lui est acquis, lui est consacré, eh bien tous nos choix seront influencés. Et si notre cœur lui appartient entièrement, c'est notre désir de lui plaire qui nous guidera, et la volonté de Dieu, on la trouvera. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons différent. C'est un des sens de la sanctification. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons différents et que cela se voit. Et pour rester dans le thème de ce texte, que ça se voit de plus en plus, sans doute. L'apôtre passe donc directement à une application précise, du principe qu'il nous propose, et il choisit d'aborder la vie sexuelle. L'être humain, rebelle à Dieu, se montre très inventif lorsqu'il s'agit de détourner, ou même, je dirais, n'ayons pas peur des mots, lorsqu'il s'agit de pervertir les bonnes choses que le Créateur a prévues pour la joie de ses créatures. Nous sommes capables d'abuser de tout. Et nous abusons des ressources de la terre, commençons à nous en rendre compte. Mais ce n'est qu'un début de prise de conscience. Mais nous sommes capables d'abuser de la nourriture, de la boisson, du travail, et bien sûr aussi du sexe. Et c'était vrai dans le contexte de Thessalonique, mais ça reste vrai dans le nôtre. Et partout où les humains exagèrent, il y a lieu, pour les chrétiens, de montrer leur différence, qui sera un témoignage. Partout où les humains exagèrent, il y a lieu pour nous de montrer notre différence, qui sera un témoignage. Je réfléchissais à ces paroles que Jésus applique au sabbat dans Marc 2, quand il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Il me semble que ça peut s'étendre ou s'appliquer, ce principe, dans bien d'autres domaines et aussi dans le domaine de la sexualité. La sexualité a été faite pour l'homme. Pas l'homme pour la sexualité. Et pourtant, ce n'est pas vraiment ce qu'on entend autour de nous. Et les contemporains de Jésus avaient transformé la disposition bienfaisante et pleine de grâce du sabbat, parce que c'est une disposition bienfaisante et pleine de grâce pour le peuple d'Israël. Ils avaient transformé cela en joug pesant pour les uns et en sujet d'orgueil, de vantardise pour les autres. Je crois que notre culture aujourd'hui en a fait de même avec la sexualité. Si vous y réfléchissez deux minutes, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Toutes les bonnes choses que Dieu a prévues et données pour la joie des humains ne peuvent être appréciées à leur juste valeur que dans le cadre que le Créateur leur a assigné. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas dans l'air du temps, les cadres. On n'aime pas trop ça aujourd'hui dans notre monde. Et pourtant, les cadres de Dieu sont des lieux de sécurité et de bonheur pour ses enfants. Et dès que le plaisir prévu par le Seigneur déborde dans l'excès pour obnubiler ou pour asservir, eh bien, les résultats sont négatifs pour l'être humain. Ça nous fait du mal. Et c'est vrai donc pour tous les excès. Encore une fois, la nourriture, le poisson, le travail, les jeux sur écran, etc., etc. Et bien sûr, pour la sexualité. Et les débordements dans ce domaine particulier ne sont pas nouveaux. La vie conjugale est ici pour Paul une bonne illustration d'un cadre nécessaire et bienfaisant. Paul souligne d'ailleurs, en passant, que dépasser les bornes fixées par Dieu dans ce domaine nous amène tout de suite à empiéter sur les droits des autres et leur faire du tort. Et il prend un exemple qui est tout à fait limpide, l'adultère. Évidemment, briser un couple pour essayer d'en former un autre, c'est faire du mal. Hein? Et puis, c'est vrai aussi, on pourrait dire, lorsque dans un couple, un partenaire profite de l'autre sans vouloir s'engager. Et ça aussi, aujourd'hui, dans le monde, c'est devenu une banalité. Le cadre que Dieu a donné au commencement reste le seul valable. Une femme, un homme, un engagement exclusif, public ou officialisé selon les normes de notre culture, et un engagement pour la vie, dans l'intention. Et en dehors de ce cadre, nous sommes dans ce que Paul appelle l'impureté, ce qui est le contraire de la sanctification. Juste une petite parenthèse pour rappeler que dans la parole de Dieu, d'ailleurs c'est bien expliqué dans le livre du Lévitique, qu'on ne lit pas assez, la pureté, c'est ce qui est normal aux yeux de Dieu. Alors il y a donc ici un appel à entrer dans cette normalité selon Dieu, même si ce n'est pas la normalité qu'on nous propose dans le monde. Et pour terminer cette partie de sa démonstration, donc Paul écrit, et je paraphrase sa pensée, « Je ne vous expose pas ma petite morale personnelle ici. Je vous rappelle les limites et le cadre que Dieu a donné. » Ce n'est pas Paul qui vous dit ces choses. Je vous rappelle l'environnement favorable que Dieu a pensé pour notre bonheur. Et derrière ça, j'entends un appel à lui faire confiance. Le Seigneur sait ce qu'il nous faut. Ce qu'il a prévu pour nous est bien et bon. Faisons-lui confiance dans tous les domaines où il nous a donné des limites et un cadre. Parce que toutes les joies de la vie sont bien et bienfaisantes. Elles sont bonnes pour nous à leur place, la place que Dieu leur donne, et bien sûr au bon dosage. Mais la seule source légitime de jouissance sans borne, parce que je crois qu'il y en a une, la seule source légitime de jouissance sans borne, nous en avons déjà parlé ce matin, c'est notre joie en Dieu. C'est notre joie en Dieu parce que de lui, de sa communion, de sa grâce, nous ne pouvons jamais en avoir trop. Et l'Esprit qui sait si bien nous recadrer, il est saint, est aussi celui qui produit l'amour véritable et la joie sans ombre. Tout ça se tient parce que c'est Dieu qui l'a conçu. Laissons donc l'Esprit de Dieu faire la différence, faire sa différence. Et laissons le faire cette différence jour après jour dans notre vie. Je termine ma lecture par les versets 9 à 12. Concernant l'amour fraternel, c'est l'autre sujet qu'il voulait aborder en particulier. Vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé, afin de vous conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ainsi, vous ne dépendrez de personne. Alors, je me répète, mais je souligne encore que Paul ne minimise pas ici les fruits évidents de l'esprit à Thessalonique. Au premier chapitre d'ailleurs de cette lettre, je vous rappelle ce qu'il a écrit, ce qu'il a affirmé. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Maintenant, donc, il insiste encore sur le chemin parcouru et en particulier sur la réalité de leur affection fraternelle. Il ne les critique pas. Il dit c'est bien. Jusque-là, c'est bien. Et puis il ajoute quand même, mais nous vous encourageons à progresser encore. Et là, on pourrait entendre peut-être, nous vous encourageons à repousser vos limites, car il y a toujours des angles morts et des lacunes à combler. Il y a toujours aussi de nouvelles stratégies à inventer pour exprimer l'amour, pratiquement cet amour que Dieu nous demande. Et ici aussi, l'apôtre va s'arrêter sur quelques détails, sur quelques exemples précis pour nourrir notre réflexion au sujet de comment notre amour peut grandir. Et il le fait sous forme de mise en garde. En résumé, il met en garde contre le danger de faire de l'amour fraternel un prétexte. De faire de l'amour fraternel un prétexte pour légitimer un esprit polémique ou agressif, un prétexte pour exercer une curiosité malsaine, un prétexte pour se laisser aller à la paresse. Je pense qu'on peut dire que, comme la sagesse d'en haut, dont Jacques nous parle dans le chapitre 3 de sa lettre, l'amour d'en haut, l'amour chrétien, est aussi pacifique, conciliant, sans parti pris. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais une parole plus haute que l'autre. Nous restons des êtres humains. Mais c'est un encouragement et une exhortation à poursuivre la paix et à rechercher l'harmonie au sein de notre diversité. La diversité, Dieu la connaît, c'est lui qui l'a inventée. Mais il veut que dans cette diversité, nous recherchions l'harmonie. Que le Seigneur nous aide à aller plus loin dans ce sens. Ensuite, l'amour que l'Esprit inspire n'est pas sans gêne. Il n'est pas sans gêne. Il n'est pas intrusif. S'il peut tout entendre, parce qu'il faut être à l'écoute de ses frères et sœurs, et c'est un des aspects de l'amour fraternel qu'on peut travailler, c'est d'écouter les autres. C'est vrai que nous avons toujours beaucoup de choses à dire, nous, mais il faut aussi apprendre par amour à écouter l'autre. Si l'amour peut tout entendre, il n'insiste pas pour tout savoir. Et je pense à un exemple précis. Lorsqu'un frère ou une sœur demande la prière, voilà, il m'arrive telle chose, j'ai tel problème, priez pour moi. Ce n'est pas une invitation à lui faire subir un interrogatoire. Alors évidemment, on a tout de suite des questions. Si c'est une question de santé, c'est oui, est-ce que tu as consulté docteur machin? Est-ce que tu as pris une deuxième opinion? Est-ce que tu as essayé ces remèdes que, voilà. Mais non. Quand ton frère dit « prie pour moi », ben prions. Et après, suivant la relation qu'on a, bien sûr, on peut donner des conseils. Mais l'amour n'est pas sans gêne. Et enfin, si l'amour nous enseigne, je pense, et c'est mon expérience, à accepter une aide matérielle lorsque nous en avons besoin. Et on a besoin que l'amour nous l'enseigne parce que ce n'est pas toujours la chose la plus facile dans la vie d'accepter l'aide de nos frères, Par contre, l'amour nous interdit d'exploiter la communauté pour nous complaire dans la paresse. Évidemment, il y a des moments où nous ne pouvons pas travailler. Il y a des situations pour des raisons de santé, pour des raisons d'âge, pour des raisons administratives, on ne peut pas travailler. Et là, l'entraide a toute sa place et l'amour doit agir. Bien sûr, on ne laissera personne mourir de faim. Mais ça, ça doit venir de la communauté pour soutenir ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour exiger. Car le principe général, c'est que l'amour nous enseigne de travailler pour subvenir à nos propres besoins et pour pouvoir aussi soutenir l'œuvre de Dieu et ainsi aussi aider ceux qui ponctuellement ont besoin de cela. Je pense que ces exemples doivent nous faire réfléchir. Paul, je suis sûr, aurait pu en dire beaucoup plus sur l'amour fraternel, mais il a choisi ces domaines-là, donc je vous les laisse pour réfléchir au fait qu'il y a aussi un cadre pour l'amour. Il y a un cadre pour l'amour où le Seigneur va nous montrer où nous pouvons intervenir, comment nous pouvons nous exprimer mieux et plus dans ce domaine. Mais ça nous incite quand même à demander que l'Esprit nous éclaire sur les domaines particuliers où notre amour, où mon amour fraternel peut progresser encore. Et là, moi, je ne sais pas ce que le Seigneur va vous montrer, mais qu'il me montre aussi ce qu'il a sur son cœur pour moi. Parce que lui, il voit les angles morts et les lacunes. Et il sait nous les montrer. Je conclus donc. Tous les enfants de Dieu ont besoin d'entendre cette exhortation à progresser encore, à aller plus loin. Et il est clair dans ce texte que cette exhortation n'est pas seulement pour les chrétiens débutants, puisque Paul l'adresse aussi à ceux qu'on peut considérer comme des modèles. Alors même si vous vous prenez pour un modèle, vous avez à progresser encore. Et même si vous êtes un modèle sans vous prendre pour un modèle, vous avez encore du chemin à faire avec le Seigneur. Et nous pouvons donc progresser dans l'application et l'acceptation des limites bienfaisantes que Dieu a prévues pour nous, pour notre vie, pour toutes les sources de satisfaction secondaires, puisque lui reste la source principale. Et puis, nous pouvons progresser en repoussant peut-être les limites que nous mettons à l'expression pratique de l'amour fraternel. Ne nous imposons pas des limites que Dieu ne nous impose pas, que Dieu veut peut-être ce matin nous dire d'élargir, hein, pour de plus en plus avoir un témoignage par notre communion fraternelle. Et nous progresserons donc surtout en laissant libre cours au travail de l'Esprit de Christ en nous. Lui, il vise à approfondir cette consécration que Dieu veut. Prions. Seigneur, pardonne-moi et pardonne-nous si trop souvent nous sommes satisfaits, trop satisfaits de ce que nous avons déjà goûté de ta grâce. Et Seigneur, si tu nous vois piétiner aujourd'hui, remets-nous en route, Seigneur, remets-nous en chemin avec toi. Car il y a encore tellement de travail à faire dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos valeurs, dans les orientations que nous prenons. Seigneur, nous voulons vivre une vie pour te plaire. Et nous voulons, Seigneur, aussi goûter cette joie sans ombre et cet amour étonnant que tu veux verser dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole puisse prendre racine en nous et produire son bon fruit par l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que tu nous demandes de faire dans nos propres forces, mais tu nous demandes d'entrer chaque jour dans cette collaboration sainte avec l'Esprit qui nous a été donné. Rends-nous toujours plus attentifs à sa voix et plus obéissants à ce qu'il nous dit. Nous voulons, Seigneur, que notre témoignage se construise par cette différence que toi tu veux faire en nous, pour que d'autres puissent te voir et venir au pied de la croix pour trouver comme nous cette vie nouvelle qui change tout. Merci Père pour ton œuvre commencée, pour ton œuvre qui continue. Merci parce que tu iras jusqu'au bout. Nous te louons, nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen.